savoir ce que c'est exactement que le cinéma.
Moteur !
Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort.
Tous les cinémas du monde. Elisabeth Le Quéré.
Bonjour, bonjour et bienvenue dans Tous les cinémas du monde, une émission qui sort cette semaine des sentiers battus, puisque à moins de deux semaines des élections présidentielles, alors que le monde entier retient son souffle, nous allons parler du cinéma des années Trump. Entre Hollywood et Donald Trump, on le sait, c'est depuis toujours une histoire d'amour-haine. Des années 70-80, où le playboy de l'immobilier était sollicité pour des caméos dans des films comme Maman, j'ai raté l'avion, ou des séries comme Le Prince de Bel-Air, Une nounou d'enfer, où ses brushings impeccables et son teint orangé faisaient merveille, jusqu'à la mobilisation générale de Hollywood contre lui à l'annonce de sa candidature à la présidentielle de 2016. Alors comment les films américains font depuis lors un portrait à charge ou à décharge du 45e président des États-Unis? Comment, alors même que marginal et méprisé par le milieu politique, Donald Trump a pu séduire toute une frange de la population oubliée du rêve américain qu'il a su faire rêver en se posant en défenseur du peuple, à la fois contre les élites économiques et contre les immigrés? Comment les thèmes de prédilection du milliardaire ont-ils trouvé un écho à l'écran? Autant de questions dont nous allons débattre dans cette émission avec nos deux invités. Eugenio Renzi, vous êtes professeur et critique de cinéma, entre autres pour le quotidien italien Il Manifesto. Bonjour.
Bonjour.
Et David Da Silva, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien du cinéma et enseignant, auteur de plusieurs livres sur le cinéma américain, entre autres sur le populisme à l'écran et sur Sylvester Stallone. Et bien sûr, un livre que vous avez signé il y a quelques années sur Trump et Hollywood, l'arrivée au pouvoir. Alors, je parlais tout à l'heure de la fronde de Hollywood contre Donald Trump. Alors, impossible de donner la liste de tous ceux qui sont montés au créneau, d'Angelina Jolie à Quentin Tarantino, J.J. Abrams, Ben Affleck, George Clooney, Nathalie Portman. Alors, on va vous faire entendre le plus virulent de tous. On est en octobre 2016, donc un mois avant la présidentielle. Écoutez bien, c'est hallucinant.
I mean, he's so blatantly stupid.
Trump est véritablement stupide.
He's a punk.
C'est un nul.
He's a dog.
Un chien.
He's a pig.
Un porc.
He's a con.
Un débile.
Un
minable.
Un
roquet qui n'y connaît rien.
Doesn't care. Thinks he's gaming.
Il ne travaille pas les sujets. Il s'en moque.
It makes me so angry that this country has gotten to this point, that this fool, this bozo.
Ça me rend si furieux que ce pays soit au stade de mettre cet imbécile, ce clown là, où il est en ce moment.
I'd like to punch him in the face.
OK. J'aimerais lui mettre mon poing dans la figure.
What I care about is the direction of this country.
Si votre futur compte, votez.
If you care about your future, vote for it.
Alors, vous l'avez reconnu, bien sûr, c'est Robert De Niro dans une vidéo donc de 2016, hallucinante, David Da Silva, où il insulte littéralement Donald Trump.
Oui, c'est surprenant parce qu'il aurait pu l'attaquer d'un point de vue politique, ça aurait été tout à fait normal, mais là on est dans l'injure. Alors c'est assez surprenant qu'il ait été jusqu'à ce point. On peut imaginer qu'il y avait peut-être un contentieux personnel à régler entre les deux, peut-être, pour aller jusqu'à ce point de l'insulte, et ensuite il l'a encore insulté lors d'un autre discours. Plus tard.
Oui, à la remise des Emmy Awards.
Tout à fait. Donc, pour être à ce point dans l'invective, c'est surprenant. Donc, voilà. Mais c'est vrai que De Niro, il représente vraiment la fronde d'Hollywood contre Trump. Alors après, j'ai fait des petites recherches. Je pense que Trump, dans son programme, il voulait annuler les aides d'État, tout ce qui concerne les artistes, les arts, etc.
Ce qu'il a fait d'ailleurs.
Ce qu'il a fait ensuite. Et je sais que la société de production de Niro, Tribeca, recevait beaucoup d'argent de l'État. Et peut-être c'est un des points qui gênait beaucoup De Niro, peut-être.
Eugenio Renzi, le débat, donc ça c'était juste avant l'élection de Donald Trump, le débat pendant cette deuxième campagne présidentielle de 2020, il est encore plus véhément.
Alors je ne sais pas si on peut aller plus loin que ça. Je voulais juste dire un truc à propos de Niro. Il est vrai qu'il l'insulte et que d'une certaine manière, il fait sortir un personnage qui a été, disons, les siens dans plusieurs films.
Hein. Oui,
Le Niro dans Raging Bull,
c'est l'aura cinématographique.
Je pense que là, disons, il interprète un peu un personnage. Mais d'autre part, il fait parler un langage qui est similaire, disons, celui de Trump, c'est-à-dire qui est il faut voir comment, à ce moment-là, Trump était celui qui avait conduit en première ligne la fronde qui demandait à Obama des comptes sur sa naissance et qui était une fronde ouvertement raciste. Voilà, les langages outranciers, finalement, disons, on comprend ça si on remet Trump déjà à cette époque-là dans ce qu'il représentait. Il représentait l'extrême droite, il représentait le racisme et l'idée qu'un président des États-Unis puisse devenir président des États-Unis, quelqu'un, disons, qui conduit une campagne électorale comme ça, c'était inacceptable. Donc voilà, là, il est indigné. Et cette indignation, disons, on la comprend.
Mais est-ce que, finalement, ça ne lui a pas un peu profité à Donald Trump, en termes électoraux, cette fronde des acteurs, des actrices du cinéma contre lui?
Alors, tous les acteurs, hein, toutes les actrices, tous les réalisateurs ne sont pas... Presque tous, mais disons, il y a aussi des gens qui ont été d'emblée pour lui et qui l'ont soutenu, disons, jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Mais disons, oui et non, c'est-à-dire que je ne sais pas en termes, disons, d'électorat, ce que cette fronde compte. Je ne sais pas, disons, quantifier, ce serait difficile. Disons, Hollywood, aux États-Unis, à la fois, disons, le monde qui produit l'imaginaire collectif, et donc dont tout le monde est influencé, mais d'autre part, disons, c'est aussi un milieu qui fait l'objet d'une certaine haine, comme toute élite, d'une certaine manière. Mais je pense que ce qu'il faut analyser, c'est le fait que De Niro, il est là sur les terrains de Trump. C'est-à-dire que Trump a toujours pensé, et là je vends la mèche de ce que je pense de lui fondamentalement, que ce n'est pas la peine de tenter un discours pour rassembler. Entrer en politique, c'est porter en politique un discours qui radicalise pour galvaniser ceux qui sont de ton côté.
Un discours qui divise. Je vous cite David Da Silva. Alors là, vous ne parlez pas de Robert De Niro dans votre livre, mais de George Clooney. Vous expliquez, en fait, pourquoi sa parole n'a pas eu d'impact hein, dans ces États décisifs qui ont voté pour Donald Trump. Je pense à la Rust Belt, je pense à tous ces ouvriers en pré-chômage, toutes ces zones un peu désaffectées. Alors, je vous cite. « Comment un mineur au chômage peut-il accorder du crédit à un acteur millionnaire vivant une grande partie de l'année dans une villa en Italie et qui lui explique qu'il doit voter pour une femme très riche méprisant son emploi ?»
Bah oui, c'est factuel. Hein. C'est, je cite dans mon livre les discours d'Hillary Clinton qui se vantait qu'elle allait mettre d'autres mineurs ou d'autres ouvriers au chômage, parce qu'elle voulait faire une transition, notamment écologique. Donc, c'est vrai qu'on est dans un point qui est crucial, c'est est-ce que le vote ethnique a été si important que ça? Ou il y a aussi le vote économique? C'est-à-dire que aux États-Unis, on aime beaucoup... alors, le mot est pas très joli, mais on aime raciser les débats. Et moi, dans le livre, j'ai essayé de montrer que peut-être, d'une certaine manière, Trump, il a réussi à rassembler les victimes de la mondialisation. Et les victimes de la mondialisation, ça concerne un petit peu tout le monde, finalement. Dans mon livre, j'estime que le vote économique a été important, finalement. C'est qu'il y a des gens qui étaient au chômage et qui, à un moment donné, ils ont voulu essayer autre chose. Quelqu'un qui leur disait « Avec moi, je vais vous donner de l'emploi, etc. » Ce qu'il a en partie réussi, parce que si on revient quelques mois avant le coronavirus, le chômage était à 4%. Donc finalement, il avait réussi son pari économique, malgré tout. Après, il y a d'un point de vue sociétal, ça c'est autre chose, mais d'un point de vue économique, il avait réussi son pari, et c'est vrai qu'il avait redonné beaucoup d'emplois aux Américains.
Et il y a en même temps, pour revenir sur ce qu'on disait par rapport au monde du cinéma, vous me disiez, Génio, quand on se parlait avant l'émission, que Trump disait tout le temps « I'm smart ». C'est-à-dire, je ne suis pas intelligent, mais je suis smart, c'est-à-dire malin. Il y a un anti-intellectualisme très fort chez lui.
Une des raisons pour lesquelles il a réussi à parler à ces couches sociales dont David parlait tout à l'heure, c'est en effet qu'il il n'a jamais confondu, disons, sa situation, sa position sociale avec l'idée d'être plus élevé que les autres culturellement. Et donc, en effet, il surfe là une haine anti-intellectuelle qui existe aux États-Unis et dont le cinéma parfois se fait écho.
Et que Trump n'a pas inventé.
Et que Trump n'a pas inventé. Ou, disons, il est plus important d'être intelligent, malin, que à cultiver, érudit, disons. Voire, disons, si on prend Hollywood dans le sens de les films... les blockbusters qui montrent, disons, par exemple, des histoires d'aventure, le méchant est toujours parleur, est toujours quelqu'un qui est dans la parole. Alors que, disons, les super-héros par excellence, disons, là je schématise, je fais des prototypes, mais disons, c'est quelqu'un de plutôt taiseux. En tout cas, c'est quelqu'un qui, quand il parle, c'est parce qu'il agit. Donc, il y a dans la culture américaine depuis toujours cette idée que la parole, les grands discours sont là, ce sont des sophismes. Voilà, ils sont là pour embobiner.
Pour vous séduire, c'est-à-dire littéralement vous détourner du droit chemin.
Alors, c'est étrange parce qu'on peut par ailleurs, disons, je pense, avec un peu d'argumentation, expliquer en quel sens Trump est le roi des sophistes. Mais disons. Dernièrement, dans un débat, seul débat, disons, ils ont été confrontés, Trump et Biden. À un moment donné, Biden a sorti les mots smart et immédiatement, ça a tiqué Trump qui a réagi, tu n'as pas le droit d'utiliser ce mot avec moi. Comme si, disons, ça lui appartenait, c'était tout ce qui le caractérisait. Bon, je reviens juste un instant sur l'idée, en effet, que Trump a rassemblé les couches populaires. Sans doute, c'est vrai. Ceci étant dit, parmi les perdants de la mondialisation, il y a aussi, disons, les Noirs américains qui votent massivement contre Trump. Ce qui est sûr, c'est que Clinton représentait vraiment très bien cette bourgeoisie globaliste qui avait quand même, disons, avec Obama, relancé l'économie américaine. Ce que Trump a fait comprendre, c'est que il allait, disons, redonner de l'allure à des oubliés, disons, de cette économie américaine qui effectivement fonctionne très bien dans les grandes villes pour certaines couches sociales qui savent s'adapter et moins bien pour effectivement un ouvrier blanc de Pennsylvanie ou Wisconsin qui, à 50 ans, il n'arrive pas, disons, à se reconvertir. Trump a parlé à ces gens-là. Je ne pense pas qu'ils vont le revoter à nous. À mon avis, disons, de ce côté-là, il les a quand même un peu déçus.
Alors, on parlait tout à l'heure des acteurs anti-Trump. On pourrait aussi citer des dizaines de chanteurs et musiciens. Ici, Tom Petty, qui chante « I won't back down », qu'on pourrait traduire par « Je ne céderai pas well, ». Petty qui chante « I won't back down ». Alors, on peut se moquer de la carrière d'acteur hein, de Donald Trump. En revanche, ce qui est sûr, c'est que quand il se présente au présidentiel en 2016, donc c'est une star de la télé-réalité, il est l'animateur depuis 2004, je crois, de l'émission The Apprentice, où il fait passer des entretiens d'embauche aux postulants. Tout ça, évidemment, dans ce qui est aux yeux du milliardaire le saint des saints, j'ai nommé la Trump Tower.
My name is Donald Trump, and I'm the largest largest developer in New York. I even have a television show. I thrive on energy. This isn't a game. I'm not playing games. Who will succeed? Who will fail? And who will be the apprentice?
Rob, you're fired. You're fired.
Bradford, you're fired.
You're fired.
You're fired.
Voilà, un petit montage de notre réalisatrice Fanny Renard. Alors, on a tout, je crois que là, on a tout compris hein, sur The Apprentice, violence, culte de la compétitivité, humiliation. C'est un peu le pire de la société contemporaine, David Da Silva. Et lui, Donald Trump, non seulement il est comme un poisson dans l'eau, dans cet univers, mais en plus, ça va contribuer à forger son image aux yeux du grand public.
Oui, bah il a utilisé ça pour sa campagne électorale. Donc il utilisait certaines phrases qu'il utilisait dans son émission. Donc ce que j'explique dans mon livre, c'est qu'il a mélangé le fan de son émission et les lecteurs.
Ouais, vous dites que les gens venaient justement à ces meetings politiques en fan plus qu'en électeur.
Voilà, c'est ça. Il a utilisé la technique de Schwarzenegger pour se faire élire gouverneur de Californie, qui utilisait beaucoup de phrases cultes de ses films. Et à chaque fois dans ses meetings, il les utilisait, etc. D'ailleurs, je crois que quand il a fait le tour des États de la Californie pour voir les électeurs, ça s'appelait Total Recall, sa campagne, comme son film de Paul Verhoeven. Donc voilà, ils ont mélangé un petit peu ils ont transgressé la frontière entre le divertissement et la politique, entre le fan et l'électeur. Et puis ça a réussi à la fois à Schwarzenegger et aussi à Trump. Donc, parce qu'on sait que la société du spectacle est très importante dans le monde occidental et particulièrement aux États-Unis.
Et ce You're Fired, effectivement, Eugenio Renzi, ça va être un peu son mode de gestion à la Maison Blanche.
Oui, si on prend l'ensemble des collaborateurs et de Trump depuis 4 ans, le tableau a complètement changé et il en a viré une grosse partie.
Oui, certains de ce point de vue-là, le livre, pardon de vous couper, mais le livre de Bob Woodward est vraiment étourdissant. C'est-à-dire qu'on a à peine le temps de se familiariser avec un nouveau personnage qu'il est déjà viré.
Exactement. Et ça, en effet, je pense que ça vient à la fois d'un problème, disons, interne au gouvernement, c'est-à-dire le fait qu'il y a une difficulté, disons, à tenir sur des points politiques précis et que, disons, la Maison-Blanche, depuis 4 ans, est non gouvernée d'une certaine manière. Mais c'est aussi, disons, l'héritage de cette émission et donc de sa manière de faire. Trump a toujours été davantage quelqu'un qui s'intéresse à communiquer avec son électorat que quelqu'un qui est intéressé à gouverner. On ne sait pas trop ce qu'il pense, disons, de la politique étrangère. Bon, il a 2-3 idées qui restent, mais c'est ce qu'on sait, c'est que il va toujours tenter de relancer la tension sur lui via Twitter, via ces entretiens qu'il donne devant son hélicoptère, chopper talk, on les appelle aux États-Unis. On a toujours l'impression que ce qui est intéressant pour lui, c'est de garder la tension et parler avec son électorat. Le galvaniser comme on fait quand on fait une émission de télé-réalité.
Tout est dans la mise en scène, donc il va se donner l'image d'un homme finalement brutal, tenace, mais qui est une image effectivement positive pour le public américain, et surtout il va comprendre que ce que les gens aiment bien, finalement, ce personnage de méchant.
Je ne suis pas sûr que ce soit pour le public américain, c'est pour une partie du public américain. Il a sans doute envie d'être aimé par tout le monde. C'est un narcissique, mais il fonctionne seulement avec ses fans qui sont une partie du public. Ce n'est jamais la totalité.
Son électorat.
Et c'est pas important parce qu'un politique, on ne gagne pas avec la totalité. Aux États-Unis, on peut tranquillement gouverner sans la majorité. Le Sénat, qui aujourd'hui, disons, décide à peu près tout, disons, aux États-Unis, eh bien, il représente la minorité des électeurs américains. Les républicains gagnent depuis belle lurette des élections sans avoir la majorité. Trump lui-même, il a été élu sans gagner les votes populaires. Il a eu 3 millions de votes moins que Clinton. La question c'est, les républicains, c'est une question que les républicains se posent depuis très longtemps. Comment gouverner sans avoir la majorité de voix? Comment rester au pouvoir sans avoir la majorité des voix?
Ce qui est rendu possible par le système des grands électeurs.
Entre autres, oui.
C'est
un héritage de l'Angleterre, disons, un système, disons, électoral qui fonctionne par collège. c'est aussi le fait qu'on ne peut pas, quand on est républicain, miser sur le fait de gagner la majorité de l'électorat, parce que les idées et les politiques que les républicains avancent sont fortement impopulaires. Ils essayent, disons, depuis 2-3 ans de virer Medicare de l'État, c'est-à-dire, disons, la sécurité sociale, la santé pour les plus de 65 ans. Ce sont des idées très impopulaires. Alors, comment gagner ? Ce ne sera pas avec la majorité de voix. Il faut trouver, disons, d'autres stratégies. Ça, les républicains le savent depuis belle lurette, mais Trump, il a trouvé, disons, la solution. Et c'est pour ça qu'il a gagné il y a 4 ans et qu'il continue, disons, de garder le pouvoir à l'intérieur du parti républicain.
Alors tout à l'heure, je vous voyais tiquer tous les deux, Eugenio Renzi, David Da Silva, quand je disais que tout Hollywood était monté contre Trump. Effectivement, tout Hollywood, ou presque, hein, et on saurait faire une émission sur le cinéma des années Trump sans ouvrir un chapitre Clint Eastwood. Alors je vous propose d'écouter la bande-annonce de Sully, un film sur lequel vous développez amplement dans votre livre, David Da Silva, film de Clint Eastwood, donc inspiré d'une histoire vraie, celle de ce pilote de ligne émérite, Chesley Sullenberger, alias Sully, qui avait réussi contre toute attente à poser son Boeing sur l'Hudson, glacé en plein hiver.
Cactus 1549, runway 4, clear for takeoff.
Cactus 1549, clear for takeoff. I'll never get over how beautiful it is up here.
Life's easier in the air.
Mayday, mayday, mayday. This is a Cactus 1549. Lost thrust on both engines. We are turning back towards LaGuardia.
I have an emergency. You've lost both engines. Returning immediately.
Today, we begin with our investigation on the crash of US Airways Flight 1549.
Mayday, mayday, hein, un pilote des oies sauvages et un grand splash. Mais David Da Silva, ce qui intéresse en fait Clint Eastwood, c'est ce qui se passe ensuite, c'est-à-dire le procès intenté à Sully, donc de toute évidence, hein, un héros dans l'esprit de Clint Eastwood, mais procès qui lui est intenté par une administration qui combine incompétence et mauvaise foi.
Oui, dans le livre, je fais le lien entre Sully, celui qui a réussi un exploit inattendu, et comme Trump a réussi l'exploit inattendu d'être élu, alors que tout le monde le donnait perdant. Et puis ensuite, il y a cette espèce de critique des médias aussi, qui vont détruire la réputation d'un homme, etc. Et puis il y a ce lien qu'on peut faire aussi avec Trump, hein, la globalité des médias était contre lui.
Qui est aussi très présente, cette dimension, dans le dernier film de Clint Eastwood, dont vous allez me rappeler le nom.
Le cas Richard Jewell.
Merci.
Voilà. D'ailleurs, je pense que c'est le film des années Trump. Je pense que c'est le film trumpien par excellence, parce que Richard Jewell, il représente l'électeur de Trump, l'électeur moyen de Trump, c'est-à-dire...
Qui veut faire régner l'ordre.
Qui veut faire régner l'ordre, qui est pas très cultivé, qui est très patriote, etc. Bon, je vais mettre des guillemets, mais c'est un peu le beauf américain. Et c'est vrai que c'est ça qu'on avait à coller sur l'électeur de Trump. On avait dit beaucoup, bon, l'électeur de Trump, c'est le beauf américain. Et c'est toute l'histoire du film, d'ailleurs. C'est parce que c'est un beauf américain que le FBI va le soupçonner d'être l'auteur de peut-être de l'attentat. Et ce soupçon-là, ça renvoie un petit peu à finalement l'électeur de Trump, qui a été aussi accusé d'être finalement raciste, etc. etc. Donc le parallèle, il est intéressant. Et puis il y avait le film précédent aussi de Clint Eastwood, qui remettait en lumière l'enjeu du Mexique et des trafiquants mexicains, etc., qui était aussi un thème très trumpien. Donc je pense que Clint Eastwood, il a été peut-être l'un des seuls à Hollywood à faire des films trumpiens, selon moi. Parce qu'en 4 ans, on a eu globalement plutôt des films anti-Trump, ce qui est normal hein, si on met ça en corrélation avec la campagne anti-Trump de 2016. Bah Hollywood a continué un petit peu son discours. Alors après, je vais revenir sur ce qu'on avait dit précédemment, c'est est-ce que ça a du poids sur la population américaine globalement ? On peut se poser la question. Autant avant, Hollywood représentait quelque chose à Hollywood, en Amérique. Je pense notamment quand il y avait John Wayne, qui était l'acteur préféré des Américains. John Wayne, il représentait l'Américain moyen. On peut se demander si aujourd'hui, l'Américain moyen se reconnaît dans les vedettes d'Hollywood. Voilà, ça c'est une question aussi.
Et pourtant, American Sniper, qui était aussi un film très with our boys, c'est-à-dire on soutient nos braves soldats partis combattre en Irak. Alors là, on n'était plus du tout dans les années Trump, c'était bien avant. Mais bon, c'était un film qui a eu un immense succès populaire aux États-Unis.
Oui, parce que ça montrait un héros patriotique. Et à la fois.
Donc, il y a quand même un public. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même un public important pour ce genre de film.
Oui, bien sûr. Bien sûr. Bah, de toute façon, c'est des films qui plaisent toujours aux Américains. Et puis, Clint Eastwood, il a cette réputation aussi encore de représenter un petit peu le vieil Hollywood, ou ce que Thomas Frank appelle l'Amérique du milieu. Que ce soit lui ou Stallone, ce sont des acteurs qui représentent l'Amérique du milieu, et non pas l'Amérique côte Est et côte Ouest.
Mais au fond, je pense plus précisément à Sully, vous expliquez à quel point c'est un film pro-Trump. Est-ce que finalement, je me fais peut-être l'avocat du diable, mais est-ce que c'est pas finalement la reconduite du thème de toujours de Clint Eastwood autour du Lonesome Cowboy et pas spécifiquement un film pro-Trump ? On pourrait dire un film pro-républicain, un film qui porte les valeurs républicaines plutôt que les valeurs spécifiquement trumpiennes.
Bah, disons que c'est Trump qui s'est agrégé à ces valeurs-là. Donc, à un moment donné, il a correspondu à ce que Trump voulait mettre en avant. C'est-à-dire que Trump, il s'est donné l'image d'homme du peuple, ce qu'il n'est pas du tout. Il s'est donné l'image d'anti-establishment, ce qu'il n'est pas du tout non plus, parce qu'il connaît, enfin, il était dans ce milieu-là. Le milieu new-yorkais, il était démocrate, très proche des Clinton, etc. Donc en fait, il a vendu une image à travers les médias qui correspondait au discours populiste qui pouvait le faire gagner. Donc en ce sens, il a été très, très malin, comme il aime le dire. Donc c'est un film, celui qui reprenait finalement des thèmes américains classiques, mais qui ont correspondu à ce que Trump, à un moment donné, il voulait mettre en avant dans sa campagne. Donc ça a correspondu.
Eugenio Renzi.
Je voulais dire un mot sur Clint Eastwood. C'est-à-dire que Clint Eastwood, effectivement, aujourd'hui, est l'intellectuel américain qui le plus rassemble, en effet, les valeurs républicaines. Il est intervenu, disons, à la convention où les républicains, dans mon souvenir, nommaient Romney contre le deuxième mandat d'Obama. Sa performance a été beaucoup critiquée, mais passons. C'est quelqu'un, disons, qui s'identifie avec ce parti-là. On peut prendre quelqu'un, disons, à son opposé, Steven Spielberg, qui au contraire, disons, est plus ou moins un intellectuel, très libéral, pas de gauche, plutôt quelqu'un de vraiment intégré dans l'establishment démocrate, un centriste, disons, éclairé. Si on prend et on analyse idéologiquement les films d'Eastwood et les films de Spielberg, moi je trouve que effectivement, du point de vue, disons, des valeurs, on peut considérer que les uns sont de droite et les autres de gauche. D'autre part, les films eux-mêmes, le film de Spielberg, pour moi, ne représentent pas des valeurs qui sont ceux, bon, je vais dire un gros mot, disons, mais du socialisme historique. C'est quelqu'un qui ne raisonne pas en termes de lutte des classes. Toutes les déterminations sociales possibles et imaginables ne feront jamais en sorte que l'on va déterminer la décision d'un individu libre. Pour Spielberg, disons, l'individu est toujours libre.
Oui, c'est très américain. Hein, comme
très américain, comme mais surtout, c'est au fond, disons, une idée de droite. Alors que Eastwood, qui effectivement véhicule et traite des questions de droite, mais ses personnages sont toujours déterminés socialement à faire ce qu'il faut. Je ne veux pas dire qu'ils n'ont pas le choix, mais disons, ils ne sont pas inscrits dans un monde où tout se presse et fait en sorte qu'ils devraient prendre une décision, et ils prennent au contraire la décision opposée. Pensez, par exemple, bon, Spielberg, il fait toujours ça, disons. Mais récemment, disons, son film sur la presse, où nous avons, disons, un personnage, une femme, qui est déterminée socialement à faire un choix. Tout pousse pour qu'elle le fasse.
Qui est le choix du pouvoir et qui ne va pas le faire. Alors, je vous propose justement qu'on écoute un extrait de ce film. Donc, l'affrontement entre deux visions du journalisme, celle de Tom Hanks et celle de sa patronne, que vous citiez, Eugenio Renzi, Meryl Streep, donc propriétaire du Washington Post. Alors, l'enjeu de la scène, c'est faut-il ou non publier des documents secrets montrant que le président, LBJ Johnson, a délibérément menti pendant la guerre du Vietnam.
So, can I ask you a hypothetical question?
Oh dear, I don't like hypothetical questions.
Well, I don't think you're going to like the real one either.
Do you have the papers?
Not yet.
This is a devastating security breach that was leaked out of the Pentagon. The most highly classified documents of the war.
The Times says 7,000 pages detailing how the White House has been lying about the Vietnam War for 30 years.
The way they lied, those days have to be over.
Can
La voix extraordinaire de Meryl Streep, donc la patronne du Washington Post. Alors vous le disiez, Eugenio, contrairement à sa position, sa richesse,
son intérêt économique et matériel le pousse à ce qu'elle décide de laisser tomber l'affaire, et contre toute attente, elle y va. C'est, disons, cette manifestation de la liberté de l'individu, de son contrôle rationnel sur sa propre existence, qui est typique de Spielberg, et qui, c'est pas une idée très de gauche. En fait, je pense que de ce côté-là, il est beaucoup plus... En tout cas, je trouve beaucoup plus intéressant les films de Clint Eastwood, parce que ils mettent en scène des situations et des contextes qui sont beaucoup plus compliqués et beaucoup plus intéressants pour moi.
Oui, et en même temps, l'idée de la démocratie en péril, sauvée par les journalistes, puisque chez Spielberg, il y a toujours une image très, contrairement à Clint Eastwood, il y a toujours une image très positive. C'est clairement un film anti-Trump.
Spielberg, ce qu'il raconte, disons, c'est aussi des éléments qui sont intéressants dans l'histoire américaine. L'histoire américaine est faite d'un très grand journalisme de haut niveau et effectivement de personnalités qui se sont engagées et qui se sont mis éventuellement, disons, en danger personnellement. En tout cas, au moment où ils ont pris une certaine décision, ils pouvaient considérer que cette décision allait à l'encontre de leur propre intérêt. Tout ça est vrai. Ceci étant dit, je pense que ça parle davantage à l'Amérique profonde, une histoire, au contraire, où on doit céder au destin, on est écrasé par le destin. Je ne crois pas que, disons, l'intellectualise comme ça, mais disons, je pense que l'Amérique profonde peut être touchée bien davantage par un discours où on est effectivement le produit d'un destin social, d'une contradiction dans laquelle on ne sort pas. Si on est ouvrier
et qu'on
travaille dans une usine qui est en train de fermer parce que l'économie va dans une autre direction, il n'y a pas de choix possible. C'est pas vrai. Et qu'au contraire, ce qui me semble fort chez Eastwood, c'est comme dans l'histoire de Joel que vous venez d'évoquer, ce sont des personnages qui sont trop petits. Oui, ce sont ou American Sniper, ce ne sont pas des gens qui décident, disons, de leur destin. C'est des gens, disons, qui traversent leur destin avec une certaine dignité. Et moi, je pense que ça touche davantage le public américain que les histoires de Spielberg.
Connu, hein, c'est Bruce Springsteen, Born in the USA. Il y a Bruce Springsteen qui s'est opposé de façon très virulente à ce que Donald Trump utilise justement Born in the USA pendant sa campagne. D'ailleurs, c'est étonnant parce qu'en faisant des petites recherches, on s'est aperçu qu'il y avait un site Wikipédia très très développé qui s'appelle, alors je vous le donne en anglais, Musicians Who Oppose Donald Trump's Use of Their Music. Il y en a plusieurs pages. Donc voilà, on voit qu'il n'y a pas que Hollywood qui s'est mobilisé contre Donald Trump. Alors on n'a pas encore parlé des séries. Mais il me semble que c'est un chapitre important hein, dans la mesure où elle reflète et peut-être de façon beaucoup plus organique hein, que le cinéma le présent de l'Amérique. Par exemple, vous me parliez, Eugénie Urenzi, d'une série qui s'appelle The Plot Against America, qui est une série de politique fiction inspirée d'un roman de Philip Roth.
Alors, j'en parlais en effet, mais pas forcément pour en dire qu'il y a du bien. Mais c'est sûr que c'est une série qui essaye de raconter quelque chose que certains observateurs trouvent pertinent par rapport à l'actualité américaine, c'est-à-dire comment on passe d'une société ouverte, d'une société, disons, démocratique, à une société autoritaire, fasciste, etc. Donc là, en l'occurrence, disons, dans cette série, on imagine que au lieu de avoir un mandat à Roosevelt, on a au contraire l'élection de ce très connu aviateur qui avait été un héros.
Charles Lindbergh, qui américain, était un héros de l'aviation, mais qui était aussi un fasciste
De plein de choses différentes, l'FBI, enfin, c'est toute une histoire, disons, avec lui. Mais bon, bref, et qui, lui, il s'est réélu surfant, disons, une vague antisémite. Une vague raciste,
populiste,
disons, qui existe au moment où les États-Unis doivent s'engager dans le deuxième conflit mondial. Donc, évidemment, disons, n'était pas forcément une idée très populaire de la part de ceux qui, effectivement, après, devaient partir pour aller combattre en Europe. Alors, il y a plusieurs échos avec Trump. C'est-à-dire, Trump, il a fait aussi une campagne où, d'une certaine manière, il retrouve certaines valeurs de l'ancien parti républicain qui est non-interventiste, qui avait été quand même pas mal abandonné avec Bush. Mais en tout cas, disons, il y a une partie, disons, de la tradition américaine de dire, ben voilà, isolationniste, on est ici, on s'occupe seulement, disons, des affaires internes, on va pas amener des guerres à droite à gauche. Trump a plus ou moins renoué avec cette idée-là. Il a fait campagne pour dire que l'Irak est une erreur et qu'il fallait sortir de l'Afghanistan, etc. Après, comme toujours chez lui, tout cela est très confus parce que par ailleurs, disons, il était à deux doigts de se lancer dans une guerre avec l'Iran, avec la Corée du Nord.
Oui, parce que comme vous le disiez tout à l'heure, d'ailleurs, il n'a pas de colonne vertébrale politique.
Non, ça, et puis c'est pas moi qui le dis, mais disons, je pensais surtout à son ancien collaborateur, à son ancien ministre des Affaires étrangères. Mais disons, le plot against America, donc, il a plusieurs éléments de rappel de la situation, disons, actuelle. Je ne trouve pas que la série fonctionne très bien, disons, mais pour toutes d'autres raisons. Mais en effet, on peut considérer qu'il saisit une question. Comment est-ce qu'une société démocratique, ouverte,
où apparemment saine, peut se corrompre?
Oui, ce qui est d'ailleurs un thème, disons, que Hollywood a longtemps traité. Hein, disons, il n'y a pas que cette série-là, il n'y a pas que depuis que Trump est là, que la question de est-ce que les États-Unis d'Amérique sont la République romaine ou l'Empire romain? Et quand est-ce qu'on passe de l'un à l'autre, disons, c'est une vieille histoire hollywoodienne. Star Wars, par exemple, c'est au fond, disons, cette histoire-là. Et donc, ce n'est pas nouveau. Ceci dit, ce qui est nouveau, c'est que je pense que jamais les États-Unis n'ont été aussi proches, disons, de devenir une société autoritaire.
Justement, David Da Silva, vous consacrez un grand chapitre de votre livre à Star Wars. Vous m'avez appris beaucoup de choses sur le côté justement militant des nouveaux épisodes de Star Wars.
Oui, j'ai pris la nouvelle trilogie de Star Wars, mais en fait, c'est globalement un nouveau mouvement cinématographique, c'est-à-dire la mise en avant des minorités. Par exemple, le premier chapitre de la nouvelle trilogie de Star Wars, c'était explicitement affiché que c'était des films anti-Trump, qui allaient à l'encontre de l'idéologie de Trump, etc. C'était dit explicitement par les scénaristes. Donc on voit que donc
il y a eu un appel au boycott, non, je crois,
Des électeurs de Trump, oui, tout à fait. Et donc voilà, c'était la mise en avant donc d'une héroïne, donc une femme. Il y a aussi un Afro-américain, etc. Et c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans le cinéma hollywoodien, c'est-à-dire la mise en avant des minorités. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est à l'encontre de ce qu'on associe en général à Trump. Trump, on associe plutôt l'électorat blanc américain. Et donc Hollywood, c'est vrai que ces dernières années ont vraiment mis en avant dans les films, mais même dans les films historiques, etc. Hein, c'est la mise en avant des minorités.
Et pour revenir aux séries, et c'est une question que je vous adresse à tous les deux, David Da Silva, Eugenio Renzi, elle raconte finalement le présent beaucoup mieux que les fictions. C'est lié à quoi, selon vous? Parce que c'est lié au fait à la lourdeur de la production d'un film, contrairement à la rapidité des séries. On a cité The Plot Against America, mais il y a aussi Space Force, il y a énormément de séries de politique fiction en ce moment qui sont clairement anti-Trump.
On peut considérer que la série a une grande capacité d'adaptabilité. Et puis aussi, disons, les séries politiques sont un genre, disons. Il y a, disons, une tradition dans la série de montrer les présidents des États-Unis, la politique, ils savent le faire. Même 24 heures chrono, disons, avait plus ou moins anticipé un président noir. Donc, je pense qu'il y a une certaine liberté des scénaristes. On peut considérer que la série, qui est constituée un peu sur le mode des anciens genres hollywoodiens, d'Hollywood classique, résonne aussi en termes de public. La série n'a pas peur de se dire « je fidélise un public particulier », quitte, disons, à laisser tomber un autre. Peut-être que
elle
les
peut
films...
fonctionner sur des niches.
Des niches, mais disons, des gens galvanisés, justement, disons, par la série elle-même. Donc, voilà, il n'y a aucun problème à penser, tiens, je vais faire une série qui va plaire vraiment uniquement à un secteur, et je le cible, et j'y vais. Peut-être que les films, disons, ils ne sont pas fabriqués, disons, de la même manière. Ceci étant dit, moi, je trouve qu'il y a, de deux côtés, disons, à la fois du cinéma, de la série, des très bons exemples, disons, des capacités à saisir les présents. Et puis, personnellement, disons, j'appartiens à la philosophie qui considère à penser que peu importe ce qu'on fait, on est déterminé, disons, par des idées qui sont dans l'air. Donc, il y a aussi, disons, une manière de représenter les choses qui est totalement inconsciente. Et au fond, c'est celle-là qui m'intéresse même davantage, disons, que l'intention des séries de faire un film sur tel ou tel événement, tel ou tel moment. C'est toujours plus ou moins, disons, les déterminés inconscients, disons, de l'idéologie qui peut éventuellement être analysée et qui me semble, disons, véritablement raconter un moment et une époque.
Alors là, pour le coup, on va parler d'un déterminisme très conscient, parce que c'est le nouveau film d'Aaron Sorkin.
Oui.
Donc, voilà, en anglais, The Trial of the Chicago Seven. En français, Les Sept de Chicago. Alors, Aaron Sorkin, hein, on le connaît. On lui doit, entre autres, The West Wing, en français, à la Maison Blanche. Et là, il revient sur un procès marquant de l'histoire des États-Unis, donc celui de sept activistes qui, en 68, avaient participé à une manifestation contre la guerre du Vietnam, organisée en marge de la Convention démocrate à Chicago.
State your name.
William Ramsey Clark.
Do you swear the testimony you give will be the truth, the whole truth and nothing but the truth?
I do.
Mr. Clark, what was your occupation in the summer of 1968?
I was the Attorney General of the United States.
You were appointed by President Johnson.
Yes.
And confirmed by the United States Senate.
Yes.
Now, did you receive a phone call at your office at 11:50 a.m. on September 10th of last year?
Yes.
And from whom was that call?
President Johnson.
Will you state what President Johnson said to you and what was said
to
him?
At this point, we will object. A cabinet officer.
Alors, Eugenio Renzi, c'est vous qui nous avez conseillé de diffuser cet extrait. Alors, racontez-nous, qui est ce monsieur Clark qui est entendu à la barre?
Oui, donc, c'est l'Attorney General, ex-Attorney General du gouvernement précédé par Johnson, donc le président américain qui a succédé à Kennedy et qui puis a été élu une seule fois, est à l'origine, au fond, de la guerre du Vietnam, disons. Donc, il est appelé à témoigner autour des événements de riots, des manifestations qui ont eu lieu pendant la Convention américaine à Chicago. Pourquoi ? Parce que son administration avait décidé de laisser tomber l'affaire. Et il va expliquer pourquoi. Ils avaient décidé de laisser tomber l'affaire parce que les services de renseignement du gouvernement avaient dit... Clairement, ce n'est pas les manifestants qui ont initié les violences, c'est plutôt du côté de la police de Chicago.
Sauf que, comme on l'entend dans cet extrait, il va recevoir un coup de fil du président.
En fait, le témoignage est autour de ce coup de fil du président. Et la nouvelle administration qui, au contraire, donc l'administration Nixon, qui décide de faire le procès, ne veut surtout pas, disons, que l'ex-attorney general témoigne. Et donc, ils objectent que ces coups de fil entre lui et Johnson étaient une conversation privée, qui était, donc, il y a un secret qui est celui des avocats vers leurs clients. En fait, c'est les juges, disons, qui lui dit ça. Et lui, au contraire, le témoin réplique, qui était, disons, connaisseur du droit, hein, parce qu'il était Attorney General des États-Unis, donc garde des sceaux. Non, moi, j'étais pas l'avocat privé du président.
Mais considère que cette conversation a eu lieu dans l'exercice de ses fonctions et donc elle peut être portée à la parole publique.
Dans un tribunal.
Alors oui. Justement, pourquoi vouliez-vous cet extrait ? Parce que là, on est un peu au cœur de la corruption démocratique.
Je pense que c'est parce que c'est un exemple qui fait écho tout simplement à des épisodes très précis la politique américaine actuelle. À plusieurs reprises, disons pendant l'impeachment de Trump, on a objecté que les collaborateurs de Trump ne pouvaient pas témoigner devant le Congrès américain, et donc notamment Bill Barr, qui est l'actuel Attorney General des États-Unis. Et l'argument, plus ou moins, était celui-là. En tout cas, pour Bill Barr, c'était l'idée qu'il ne peut pas révéler la parole du président.
Mais du coup, Eugénie Renzi, vous qui récusez, j'exagère un peu, mais l'expression film ou série pro-Trump, là, en l'occurrence, c'est vraiment un missile, ce film d'Aaron Sorkin, directement adressé à l'Amérique de Trump. C'est aussi un cri d'alarme sur une démocratie qui est en train de se déliter sous nos yeux. Non.
Alors, disons, la raison pour laquelle il m'intéressait, c'est que, un, généralement, je me méfie des fictions de gauche, et que pourtant, j'ai bien aimé ce film-là. Donc, ça, déjà, ça m'intéresse. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'une fiction de gauche est plus ou moins réussie ? La deuxième question, c'est que l'épisode en question, en fait, il est tiré d'une histoire vraie qui se passe en 68. Les auteurs n'ont pas changé grand-chose, disons, à la lettre du procès. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'ils se retrouvent avec un matériel qui fait écho au présent. Alors ça, disons, je pense que ça pose une question politique, c'est-à-dire, est-ce que ce que vit l'Amérique aujourd'hui est quelque chose, disons, qui fait partie de son histoire, et donc, disons, qui appartient plus largement à une histoire d'un danger immanent aux États-Unis, d'une administration qui peut devenir un parti privé, au lieu, disons, de représenter l'intérêt général, de devenir le parti du président, la chose du président, et donc pas une république, une chose publique, mais une res privata, une chose privée. Ou est-ce que, disons, au contraire, il y a une spécificité de Trump ? Je pense que le film, d'une certaine manière, est intéressant à voir pour ça. C'est-à-dire qu'il est, à la fois très proche de ce qui se passe en ce moment, et d'autre part, c'est une histoire de 68. Alors, qu'est-ce qu'il faut voir ? L'invariant ou la différence ? Et qu'est-ce que ça nous dit, disons, sur les années 30 ? Sur les années 30, pas 30.
merci à tous les deux. Merci Eugénio Renzi, merci David Da Silva. Donc, est-ce que vous avez fini le tome 2 ? Puisque le tome 1 de votre livre, hein, je le cite, Trump et Hollywood, l'arrivée au pouvoir, David Da Silva. Donc, ça implique un tome 2 sur les années Trump.
Alors, je dis à la fin du livre que je commencerai seulement si Trump n'est pas réélu dans quelques semaines. C'est-à-dire que j'attends de voir s'il fait un double mandat ou pas. Donc, s'il n'est pas réélu, je commencerai à travailler sérieusement sur le sujet. Et puis sinon, j'attendrai encore 4 ans pour commencer à travailler.
Et à quand le biopic de Trump ?
J'en parle aussi dans le livre.
C'est impossible, en fait.
On ne sait pas, mais je pense que c'est quelqu'un qui aime beaucoup le cinéma et qui rêve, je pense, que quelqu'un mette sa vie à l'écran. Hein. Je pense que son rêve, ça serait Clint Eastwood qui réalise son biopic, sans doute.
Merci à tous les deux, David Da Silva. Donc, je signale à votre livre donc, qui est paru aux éditions Leitmotiv et qui existe également en version numérique. Merci Eugénio Renzi, merci Fanny Renard pour la réalisation de cette émission. Merci à Thomas Sautinel pour ses suggestions musicales et ses conseils toujours avisés. Tous les cinémas du monde, c'est fini pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on change de style et d'époque, puisqu'on vous invitera à traverser la filmographie d'Elizabeth Taylor à l'occasion de la rétrospective qui lui est consacrée à la Cinémathèque française. Et d'ici là, bonne semaine à tous.